Vous écoutez
RMC.
Lundi 18 mai.
L'info sur RMC.
Il est presque 6h. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. À la une de ce journal, un témoignage, celui du père du garçon décédé des symptômes de la maladie de Kawasaki le 8 mai à Marseille. Il avait 9 ans, l'enfant avait été en contact avec le Covid-19. La famille envisage de porter plainte. 25 foyers de contamination identifiés dans tout le pays depuis le début du déconfinement, notamment dans des abattoirs, mais aussi dans un foyer de jeunes travailleurs à Compiègne, dans l'Oise. Et puis la rentrée des classes en zone verte au collège ce matin pour 150 000 élèves de 6e et 5e, reprise progressive et port du masque obligatoire. Il est 6h, bienvenue à tous sur RMC. C'est un père anéanti qui prend la parole ce matin. Son fils de 9 ans est décédé à Marseille le 8 mai dernier. Il a succombé à une forme proche de la maladie de Kawasaki, décrite chez des enfants ayant été en contact avec le coronavirus. À ce jour, 144 cas ont été répertoriés en France, selon la Direction Générale de la Santé. Ce papa a décidé de se confier à nos confrères de BFM TV pour alerter les autorités, mais aussi les parents. Benjamin Pelsi.
Après 3 jours de fièvre, ce père amène son fils aux urgences. Sa température est de 38,5. Des plaques rouges sont apparues sur l'ensemble du corps du garçon.
Une interne est arrivée, elle a commencé à l'examiner. Elle a déshabillé, elle a regardé toutes ses plaques rouges, ses boutons rouges. Elle n'était pas très rassurée.
Les médecins laissent repartir le père et l'enfant avec une ordonnance d'antibiotiques. Quelques heures après, il fait une attaque cardiaque, hospitalisé en réanimation. Le garçon de 9 ans sera déclaré en mort cérébrale 5 jours plus tard.
J'ai demandé, est-ce que vous avez trouvé à quoi ça a été dû. Le médecin m'a dit qu'il s'avérerait que les symptômes ressemblent aux symptômes du Kawasaki.
Pendant ces 5 jours, le garçon est testé au coronavirus. Il a bien été exposé au Covid-19, mais sans développer de symptômes.
Ce contexte sanitaire, je pensais qu'on allait jouer la carte de la précaution. Mon fils n'avait pas d'antécédent médical, il était en parfaite santé. Je souhaite que ce soit le premier et le dernier en France. Je souhaite à aucun parent de vivre une tragédie pareille.
La famille envisage de porter plainte pour faire toute la lumière sur la mort de l'enfant.
7 jours que la France est déconfinée, ces dernières 24 heures, 483 personnes sont décédées. C'est le bilan le plus élevé depuis fin avril. Une hausse qui n'est pas due à la levée du confinement lundi dernier, puisque ce délai est trop court par rapport à la durée d'incubation et d'aggravation de la maladie. 25 foyers de contamination ont été identifiés sur le territoire. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a estimé que c'était la preuve que le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination était opérationnel. Mais ce qui est surprenant, c'est la variété des cas et des lieux. Nicolas Robert.
Par exemple, ces foyers de contamination dans des abattoirs. L'un dans les Côtes-d'Armor, où 69 personnes ont été testées positives. L'autre près d'Orléans, où 34 salariés d'une entreprise sont contaminés. La cause principale est souvent la même. Il est difficile, voire impossible, de respecter la distanciation physique. C'est le cas aussi de ces structures qui hébergent des travailleurs. À Clamart, en Ile-de-France, à Compiègne, dans l'Oise, ou à Annecy, à chaque fois, les résidents se sont infectés entre eux. Il y a aussi ces cas de contamination lors d'obsèques, comme en Savoie ou en Dordogne, de réunions de profs dans la Vienne ou d'employés municipaux dans le Tarn. Pour l'instant, ces foyers ont rapidement été détectés et les cas contacts sont en train d'être testés. L'objectif des autorités sanitaires, éviter une nouvelle propagation à grande échelle du virus.
Et à Fleury-les-Aubrais, donc dans le Loiret, où 34 personnes ont été testées positives au Covid-19, la mairie a décidé de fermer tous les établissements scolaires par précaution. Reprise très progressive aujourd'hui dans les collèges, les 6e, 5e peuvent retourner dans leur établissement. Attention, seulement en zone verte, là où le Covid-19 circule peu. 150 000 élèves au total sont concernés. Chaque collège a dû se réorganiser pour respecter le protocole sanitaire. En tout cas, Margot, élève de 5e à Nice, et sa maman Sandra sont impatientes de reprendre un rythme un peu plus normal.
Le réveil, ça va être dur, c'est sûr. Adieu les grasses matinées. Mais au moins, ça va permettre de mieux travailler. On peut dire que c'est comme une nouvelle rentrée. Les amis, d'habitude, qu'on se voit, on se fait des câlins ou on se fait des bisous pour dire bonjour. Là, il y aura les 1 mètre de distance, donc ça va être un peu plus différent.
Je suis contente qu'elles reprennent. L'idée, c'est quand même reprendre le chemin de l'école, c'est reprendre le chemin de la vie, d'une certaine façon, la vie ordinaire. Que chacun, à nouveau, retrouve un peu la place à laquelle il est convié, en fait.
Et je précise que pour l'instant, il n'y a pas de reprise pour les quatrièmes, troisièmes qui attendent les décisions du gouvernement prévues à la fin du mois. Des écoles des communes de Soyaux et La Couronne dans la banlieue d'Angoulême fermées temporairement. Deux membres du personnel enseignant ou encadrant ont été testés positifs au Covid-19. En Italie, on ne déconfine pas à moitié. La plupart des entreprises et commerces du pays rouvrent aujourd'hui et contrairement à la France, les restaurants, bars et cafés accueilleront aussi des clients. C'est un risque calculé, a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte. Les gymnases, piscines, cinémas et théâtres seront eux autorisés à ouvrir dans une semaine. Alors, c'était comment ce week-end? Ça faisait finalement longtemps qu'on ne s'était pas trop posé la question entre nous. Confinement oblige, mais celui-ci avait un goût de liberté retrouvée. Fanny Cousin.
À Carnon, près de Montpellier, la plage a rouvert ce week-end. Rosène savoure son premier bain de mer.
L'odeur de l'iode et de la mer, ça manquait.
Soleil, ciel bleu, plage, Lydia apprécie ses premiers instants de liberté.
Bah, c'est mon premier jour de plage. Je vais mettre mes pieds dans l'eau, si vous savez comme c'est bon. C'est la vie qui reprend.
À Lyon, Sirena profite d'un peu de verdure. Le département du Rhône est en zone verte et le parc de la Tête d'Or est donc ouvert. L'occasion pour elle de retrouver quelques amis sans oublier la distanciation sociale.
Je vois mes potes, mais à distance un peu. Chacun sur un banc, à peu près un mètre de distance, histoire de renouer les liens, c'est cool.
Revoir ses proches, à Rouen, Quentin, Alison et Com ont organisé un pique-nique de retrouvailles.
On avait besoin de se revoir après un mois et demi.
On a besoin de se revoir, il fait beau et tout. Donc,
il fait beau, l'été
c'est
commence.
Cool, c'est plaisir.
Puis le côté nature, ouais, qui est sympa.
Décompresser un petit peu.
Ces Rouennais attendent désormais la prochaine étape du déconfinement début juin, avec, ils espèrent, la réouverture des bars et des restaurants.
Dans l'actualité également, la mort d'un adolescent de 17 ans. Ça s'est passé hier soir dans le quartier de Planoise à Besançon. Jean-Baptiste Bourgeon, le tireur a pris la fuite.
Oui, hier vers 19h30, l'adolescent est au pied d'une barre d'immeuble de ce quartier sensible. Un coup de feu éclate, il est mortellement touché au thorax à bout portant. Ce jeune homme de 17 ans était connu de la justice pour trafic de stupéfiants. Sa mort serait peut-être liée à un règlement de compte entre bandes rivales. Plusieurs fusillades ont eu lieu dans ce quartier au cours des derniers mois. Un homme, un complice présumé du tireur, a été interpellé. Mais l'auteur du coup de feu, lui, a réussi à prendre la fuite. Il est activement recherché.
Merci Jean-Baptiste. Et des violences ont éclaté aussi hier soir à Argenteuil dans le Val d'Oise, au lendemain de la mort d'un jeune homme de 18 ans dans un accident de motocross à proximité d'une voiture de la BAC. Il n'y a pas en tout cas de corrélation entre l'accident. Les forces de l'ordre ont fait usage de lacrymogènes pour disperser de petits groupes d'habitants. La nuit des Molières, qui décerne les prix les plus prestigieux du théâtre français, aura bien lieu cette année. Ce sera le 23 juin prochain. Il n'y aura pas de public. Ce sera diffusé à la télévision dans un format adapté. Isabelle Adjani est nommée dans la catégorie meilleure comédienne.
Bien, merci Céline. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment. Bien, ça va mieux, hein, au standard, ça marche, vous pouvez appeler le 3216, il n'y a pas de souci. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Bien, vous êtes à l'antenne dès que vous le souhaitez, vous appelez, vous connaissez notre lien. Il est étroit, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Il est 6h07, le Covid-19 touche particulièrement les abattoirs. Vous avez entendu cela dans le journal et vous avez suivi. Hier, plus de 100 personnes, je dis bien 100 personnes, étaient testées positives au Covid-19 dans deux foyers au sein de deux abattoirs, l'un près d'Orléans et l'autre près de Saint-Brieuc. Dans les Côtes d'Armor, 6 cas avaient été signalés vendredi dernier et les tests de dépistage ont fait apparaître 63 nouveaux cas positifs. Dans le Loiret, ce sont 34 cas qui ont été confirmés dans l'abattoir Tradival, le plus important abattoir d'animaux de boucherie de la région Centre-Val-de-Loire. Reportage de Camille Schmitt à Fleury-les-Aubrais, donc dans le Loiret.
Devant l'abattoir, Aminata est nerveuse. Elle attend son tour pour se faire dépister du coronavirus. Cette salariée n'a aucun symptôme, mais elle craint d'être contaminée.
On a le gel hydroalcoolique, on a les masques, et puis voilà. Mais c'est impossible de respecter la 1 mètre de distance, parce que vu comment on travaille...
34 cas ont été confirmés dans cet établissement. Plus de 360 salariés doivent être dépistés d'ici demain. Pour Laurent Habert, directeur général de l'Agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire, le but est de casser la chaîne de transmission du virus.
À chaque fois qu'il y a un cas confirmé, il y a également une recherche de cas contact qui se fait dans la sphère amicale, familiale, de façon à chercher les ramifications à partir de ce noyau initial professionnel.
À 400 km de là, dans l'abattoir de Kermenet, en Bretagne, ce sont désormais 69 salariés qui sont contaminés. Un chiffre qui inquiète Alain Cadet, président du conseil départemental des Côtes d'Armor.
Les salariés habitent 20 ou 25 communes autour et peuvent évidemment disséminer en quelque sorte le virus. Ça va tellement vite.
L'apparition de ces foyers de contamination peut s'expliquer par les conditions de travail dans ces établissements restés ouverts pendant le confinement, selon l'épidémiologiste Yves Buisson.
Les conditions de promiscuité, les endroits où les gens se changent, hein, les vestiaires, etc., qui sont peut-être à revoir par la médecine du travail.
Il rappelle que la viande n'est pas considérée comme un vecteur possible de transmission du virus.
Oui, mais on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de cas dans les abattoirs français? Quentin Vinet, la France n'est pas le seul pays concerné. D'autres pays constatent une hausse des contaminations dans les abattoirs.
Oui, on estime que 4% des salariés américains qui travaillent dans des abattoirs aux États-Unis sont atteints du Covid-19. Le Centre de contrôle et de prévention américain a recensé environ 5000 cas pour 130 000 employés. Des contrôleurs, notamment 4 contrôleurs chargés de faire respecter les règles sanitaires, sont morts selon les autorités. Mais en réalité, ce chiffre serait plus élevé. On serait plus proche de la trentaine selon un syndicat américain. Le constat est le même en Allemagne. 400 salariés d'une usine ont été déclarés positifs au Covid-19 dans une ville, pas très loin de la frontière d'ailleurs. Là-bas, la règle c'est la suivante, les sites les plus touchés sont fermés et tous les employés sont testés. La même politique est menée en France. Les 400 salariés près d'Orléans vont être dépistés, dépistage qui a déjà commencé d'ailleurs, et les premiers résultats seront connus très rapidement.
Contamination dans les abattoirs, les consignes du gouvernement sont pourtant très strict dans les abattoirs.
Et oui, c'est pour ça qu'on s'étonne ce matin, parce que vous savez que le gouvernement a rédigé des fiches métiers avec des consignes pour tous les métiers imaginables. Il est demandé dans les abattoirs, évidemment, de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène, mais aussi de condamner un poste de travail sur deux à la découpe, par exemple, pour respecter les distances de plus d'un mètre sur la chaîne d'abattage. Il y a beaucoup de bruit avec les machines, alors il est demandé de remplacer la parole par des gestes codifiés pour se passer les consignes, ou alors de les écrire sur des ardoises, éviter le travail en équipe, mettre en place une procédure spécifique pour les couteaux et même dans les vestiaires ou alors les salles de repos en établissant carrément un planning pour les pauses cigarettes.
Merci Quentin, il est 6h11, vous appelez le 3216, vous avez l'habitude maintenant, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, nous continuons et nous allons parler des masques ou des gants que l'on retrouve partout, dans les fossés, au bord de la route, dans la rue. Nous sommes avec Didier qui a 61 ans, qui est dans les Yvelines. Bonjour Didier.
Bonjour Jean-Jacques.
Ça va Didier ce matin? Très bien. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio Didier?
Non, j'écoute la radio, je suis dans ma grue.
Dans votre grue? Ah, déjà? Déjà au boulot là?
Oui.
À quelle hauteur?
Je suis à une cinquantaine de mètres.
À une cinquantaine de mètres, hein. Tout seul dans votre grue, là vous êtes bien?
Oui. Tranquille.
Bah, il fait beau en plus, non?
Ah bah oui, là c'est top.
C'est top. Là, faire de la grue, comme on dit, vous êtes grutier, hein, de profession. 48 ans.
Ça commence à faire.
Non, mais ça fait pas 48 ans que vous êtes grutier.
Non, mais ça fait exactement 43 ans. Mais entre-temps, je faisais grutier, puis je faisais autre chose.
Ah d'accord. Ouais. Mais pourquoi grutier?
J'ai commencé comme manœuvre et puis après mon patron il m'a demandé de dépanner parce qu'il avait pas de grutier et puis j'ai commencé comme ça puis ça m'a plu puis voilà quoi.
Oui. Et vous retrouvez seul là-haut?
Oui, tout seul. Oui,
C'est ce que vous aimez?
Ah oui. Je suis tout seul et puis même quand je suis à la maison, je travaille, je préfère travailler seul parce que j'ai l'habitude d'être tout seul.
Ouais. Vous savez Didier, je me souviens d'un reportage que j'avais effectué à l'occasion de la construction du viaduc de Millau. Oui. Et là-bas, il y avait des grutiers, des grues qui étaient, mais je ne sais pas combien de mètres de haut, c'était impressionnant.
Oui, ils sont à peu près à 180-200 mètres à peu près.
180-200 mètres de haut. Ouais. Et le grutier me disait, je suis capable d'enfoncer un bouchon dans une bouteille de champagne.
Oui, ça se peut, parce qu'on a des caméras. Moi, j'ai travaillé le plus haut que j'ai travaillé, j'étais à 193 mètres. On a des caméras, on peut zoomer. Le gars qui est en bas avec son téléphone, ou qui me regarde, qui me fait une grimace, je le vois, parce que je zoome et on voit très bien. Comme si on était à côté.
Comme si vous étiez à côté. Alors, ouais. Oui, la précision doit être extrême. Extrême.
À peine on touche la manette, le frein commence à se déclencher et le poids du crochet fait descendre le mouf tout doucement.
Tout doucement.
Ouais.
Non, c'est impressionnant, la technologie maintenant embarquée dans ces grues. Hein.
Ah ben, ça n'a rien à voir il y a 30 ans, 40 ans.
Oui. Vous montez comment? 200 mètres, on monte par une échelle ou un petit ascenseur?
Maintenant, les ascenseurs sont obligatoires à partir de 35-40 mètres.
35-40 mètres, oui. Ouais, vous prenez un ascenseur dans la grue?
Oui. Vous avez l'ascenseur. Soit il est à l'intérieur, soit il est à l'extérieur.
Dites-moi, vous n'avez jamais eu le vertige, Didier?
Non, vaut mieux pas.
Non, mais ça, c'est pas pour moi, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas pour moi. Charles, non, c'est non. Pour vous.
Moi qui n'ai pas le vertige, passer, je pense, 10-15 mètres, je commencerai un peu à trembler. Il faut avoir confiance dans son matériel quand on monte.
Mais tout ce que je viens d'entendre, ça me passionne. J'ai très envie de monter dans une grue.
C'est passionnant, hein,
Je vous invite à venir, en plus, je suis sur le plateau de Saint-Clé, à côté de Palaiseau.
Didier, à partir de quelle vitesse du vent vous ne montez plus?
On ne travaille plus à partir de 70 km/h. À partir de 50, déjà, de toute façon, tout ce qui est les panneaux, le contreplaqué, tout ce qui fait force au vent, à partir de 50, on ne prend plus les panneaux, tout ce qui est léger. Et à partir de 70 km/h, on monte le crochet et on attend.
Moi, je me souviens, ce que me racontaient ces grutiers du viaduc de Millau, ils me disaient, au moindre souffle de vent, on sent la grue bouger.
Ah oui, c'est même à 25-30 km/h. Quand vous avez des grandes flèches, quand vous avez 50-65 mètres de flèche, quand vous êtes en bout de flèche, ça bouge un petit peu.
Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez eu peur déjà? Le vent, à cause du vent essentiellement.
Non. Je me souviens quand il y a eu les grosses tempêtes sur Paris, le plus que j'étais, c'était à 110 km/h. J'avais pas peur. Par contre, quand je suis descendu, j'étais en bas, j'avais peur parce qu'il y a pas mal de choses qui volaient. Donc, en fin de compte, j'étais plus en sécurité dans le fût de ma grue qu'en bas.
Extraordinaire, Didier. Extraordinaire ce que vous nous racontez. Bon, Didier, en bas, malheureusement, qu'avez-vous vu? Des masques ou des gants dans la rue ou dans les fossés?
Des masques. Et c'est vraiment là, j'ai honte d'être français, quoi.
Ouais.
Quand on voit ce truc, et j'entendais un auditeur qui disait, c'était un policier, je crois qu'il est à La Réunion, qu'il pouvait mettre des amendes de 68 euros, et qui, de toute façon, les gens faisaient pas la différence.
68 euros, ça c'est pour les mégots, hein.
Oui, bien sûr. Mais bon, je vous garantis que si vous mettez une amende de 200 euros, le gars, avant de jeter le masque, il va réfléchir. Hein. Enfin, je sais pas, à part qu'il soit milliardaire, mais bon.
Oui. Non.
Mais c'est vrai, c'est une honte.
Il faut mettre des amendes pour vous, Didier.
Ah oui. Faut taper où ça fait mal. Faut taper où ça fait mal, monsieur Bourdin.
Oui.
C'est malheureux. Oui. Et l'argent qu'on arriverait à récolter, servirait pour les gens qui ont travaillé pendant le confinement.
Ben oui.
Et puis l'État, parce que l'argent,
l'État, c'est nous,
l'État qu'ils ont donné, il faudra bien payer un jour.
Ah oui, et l'État, c'est nous. Hein. N'oublions jamais ça. Il y a beaucoup oublié.
Bien sûr.
Hein oui.
Et là, il faut travailler, il faut reprendre le boulot, mais il faut faire ça intelligemment, c'est tout. Quoi.
Ben. Merci beaucoup, Didier.
De rien, Jean-Jacques. Et merci, continuez, puis bonne semaine à vous.
On va continuer, ne vous inquiétez pas, il est 6h18. Nous allons prendre notre première invitée, Aline Gubry, dans un instant. On va faire un tout petit peu de pub, pourquoi ? Aline Gubry est consultante en développement durable. Elle va nous rappeler que les masques, les gants ne sont pas biodégradables. À tout de suite, vous êtes sur RMC. Merci, formidable, hein, Didier. Il est 6h18.
RMC. RMC,
6h-9h, Bourdin Direct. Il est 6h21, nous n'arrivons pas à joindre Aline Gubry. Décidément, ça commence mal cette matinée. Je sens qu'on va avoir des problèmes tout au long de la matinée. Mais enfin, ça arrive. Vous continuez à appeler le 32-16, maintenant ça marche. Bien, on va se tourner vers Charles Magnin, qui lui est là.
Dans ces cas-là.
Tournons-nous vers Charles, il est là. Tous les matins, trois histoires, trois images insolites, Charles.
Oui, on va commencer avec une messe en drive-in. C'était hier à Châlons-en-Champagne, une première en France, sur le parking du parc des expositions. Merci. 200 voitures espacées d'un mètre l'une de l'autre face à l'évêque sur scène qui célèbre une messe diffusée dans les radios des véhicules. Et pour recevoir la communion, eh bien, il suffisait d'allumer ses warnings, de baisser sa vitre et un prêtre vient distribuer l'hostie de la main à la main, des mains évidemment lavées avant et après. Image insolite qui prouve qu'on peut célébrer une messe tout en respectant les fameux gestes barrières. Et certains vont plus loin, comme ce prêtre de Détroit aux États-Unis qui désormais bénit les passagers des véhicules avec un pistolet à eau. Là encore, une sorte de drive-in. Le croyant arrive à hauteur du prêtre, il baisse sa vitre et hop, le prêtre lui envoie une petite rasade d'eau bénite avec son pistolet.
Si vous êtes sur RMC Découverte,
il n'a pas besoin de s'approcher des voitures. Voilà,
il est avec son pistolet à eau.
Exactement. Eau bénite dans le pistolet. Attention, soyons précis.
Il est vert, le pistolet.
Voilà. Le croyant baisse sa vitre et hop, petite rasade pour les plus fidèles. Ça allie les deux passions de certains Américains, les armes et la religion.
Bien, aux Pays-Bas, les autorités conseillent aux célibataires de se trouver un partenaire sexuel exclusif pendant l'épidémie.
Oui, écoute bien, Quentin. Aux Pays-Bas, le confinement n'est pas obligatoire, mais la population est invitée à suivre des consignes très claires. Ainsi, le très sérieux Institut National de la Santé Publique néerlandais a publié cette note qui précise qu'il est logique, Quentin, qu'en tant que célibataire, vous souhaitiez également avoir des contacts physiques. Il faut alors, je cite, fréquenter la même et unique personne, un copain câlin ou une copine câline, et réduire au maximum les contacts avec d'autres personnes. Une consigne de bon sens en réalité, qui a d'ailleurs beaucoup agacé les internautes qui estiment que les autorités s'invitent un peu trop dans leur vie privée. Certains redoutent d'ailleurs la publication d'une sorte de Corona Sutra qui montrerait les gestes barrières à respecter sous les draps.
Les Corona Sutra, c'est pas mal. Oui. Nous terminons avec un record, celui de la paire de baskets la plus chère de l'histoire.
560 000 dollars. C'est le prix auquel a été adjugé hier soir aux enchères une paire de sneakers, comme on dit. C'était à New York. Pas n'importe quelle paire, des Air Jordan 1, modèle rouge, blanche et noir, fabriqué en 85, porté en match et autographié par Michael Jordan lui-même. Alors évidemment, ce record s'inscrit dans la folie qui entoure en ce moment tout ce qui touche de près ou de loin à Michael Jordan. Le documentaire sur sa vie, qui s'appelle The Last Dance, fait un carton d'audience dans le monde entier sur Netflix. On vous le recommande d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et surtout, ça confirme désormais que les baskets, les sneakers, sont de véritables œuvres d'art qui ont leur place aux enchères, comme des tableaux ou des sculptures.
Bien, attention la mouche.
Elle est sur votre épaule.
Oui. Non, pas attention d'ailleurs, mais elle est là, oui, elle vole.
Ne lui
là,
faites pas de mal, Jean-Jacques.
Non, monsieur, jamais je ne vais tuer une mouche. Mais non, pourquoi ? Un insecte, je ne tue jamais un seul insecte. Et chez moi, dans mes Cévennes, c'est la maison des insectes. Il y a des insectes partout. Et ben des donc, scorpions, des araignées, des... Mais c'est bien,
donc
les insectes.
Donc la mouche va nous accompagner.
Ça prouve que c'est sain, que l'environnement est sain.
Que c'est vivant.
Bon, c'est vivant, oui, d'accord.
On va en faire venir d'autres, d'ailleurs,
Aline,
d'autres mouches.
Aline Gubry, et donc là, j'ai récupéré Aline Gubry, qui est consultante en développement durable. Bonjour.
Bonjour, Jean-Jacques.
Zéro plastique, zéro toxique. C'est ça votre livre, c'est ça?
Oui,
hein,
exactement. Ouais. Et le guide de l'alimentation durable également.
Et le guide de l'alimentation durable. Dites-moi, Aline Gubry, il faut rappeler quand même que les masques jetables, que les gants ne sont pas biodégradables.
Exactement, merci Jean-Jacques. En fait, les masques chirurgicaux sont faits de polypropylène. En fait, c'est du plastique, hein. C'est vraiment du plastique. C'est le même plastique qui est utilisé dans les pots de yaourt, par exemple. Alors, on n'aurait pas idée de jeter un pot de yaourt par la fenêtre dans la nature. Pour les masques, c'est exactement pareil.
Oui. De la matière synthétique issue de la pétrochimie.
Exactement, exactement. Donc, c'est absolument pas biodégradable. S'ils se retrouvent dans la nature, par exemple, ces masques vont être chargés de produits chimiques toxiques pour la faune, pour la flore, pour les sols, etc. Ils ne vont absolument pas disparaître. Et donc,
est-ce qu'on peut les recycler, Aline Gubry? Est-ce qu'on peut les recycler?
C'est l'autre question. Non, surtout pas. En fait, techniquement, le polypropylène serait recyclable. Techniquement, on sait le recycler. Les pots de yaourt, par exemple, dans certaines communes, peuvent être recyclés. Le problème, c'est que là, pour des raisons sanitaires, évidemment, aucune filière de recyclage ne va les accepter. Donc, il ne faut surtout pas les mettre dans la poubelle de recyclage. Il faut vraiment les mettre dans la poubelle d'ordures ménagères non recyclables, dans un sac poubelle.
Dans un sac poubelle. Sac fermé, donc à mettre avec les ordures ménagères. Il faut rappeler que quand on les jette, quand on les jette par terre dans un fossé, que se passe-t-il, Aline ? Racontez-nous.
Eh bien, ils vont pas disparaître, ils vont tout simplement se déliter en ce qu'on appelle des particules de microplastiques, donc qui sont quasiment invisibles à l'œil nu, mais qui sont très dommageables pardon, pour l'environnement. La faune, par exemple, va le confondre avec une alimentation, donc des poissons vont manger ces microplastiques, et figurez-vous que ces poissons, après, on va les manger. Donc, en fait, on va retrouver nos propres déchets plastiques dans le poisson qu'on mange potentiellement.
Bien, merci Aline. Jeter par terre, ces masques ou ces gants sont emportés par le vent, par la pluie, puis les fleuves, et finissent souvent dans les mers et les océans. Merci Aline Gubry d'être passée par chez nous, hein, comme ça avec la liaison Skype. Vous vouliez nous dire quelque chose, Quentin Jossan ?
Sur les masques, si vous voulez.
Ah bah, sur les masques, tiens. Allez-y.
De plus en plus de Français en portent et ça tombe bien parce que leur efficacité est prouvée par une étude qui a été menée sur des hamsters par des chercheurs à Hong Kong. Alors ces chercheurs ont placé des cages contenant ces hamsters, des hamsters infectés, à côté d'autres cages qui elles contenaient des hamsters en bonne santé. En fait, ils voulaient voir si les animaux malades allaient contaminer les autres. Ils ont mis en place un système de soufflerie pour pousser le virus et ils ont installé des masques entre les cages pour voir si ça faisait vraiment barrière. Le résultat, eh bien, c'est que la transmission du virus est réduite de 60% avec le masque, alors que deux hamsters sur trois tombent malades quand il n'y a pas de masque. C'est bien la preuve que c'est efficace, dit le chercheur de Hong Kong à l'origine de cette étude. C'est un expert en coronavirus, grand défenseur du masque aussi, il faut le dire.
Est-ce que ce déconfinement est conduit à un bon rythme ? Faut-il accélérer le déconfinement ? Oui, non, on en parle ce matin, c'est un bon débat. Michael, tiens, qui est à Saint-Mandrier-sur-Mer, dans le Var. Très vite, Michael, j'ai une minute avec vous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez respecté le confinement, hein ?
Oui,
pratiquement à la lettre.
Je l'ai respecté à la lettre et depuis le déconfinement, je ne suis pas encore sorti.
Ah bon ? Pas encore ?
Non. Non, parce que j'ai une peur bleue d'être contaminé.
Oui. Vous avez peur d'être contaminé, vous n'êtes pas sorti, mais vous pouvez quand même, en prenant les précautions, hein, Michael ?
Ah, pourtant, j'ai trois masques en tissu à la maison, donc tant que. La mairie de mon village m'a donné, mais je ne sors pas, j'ai peur.
Vous avez peur, une phobie, quoi. C'est
oui,
ça,
voilà,
Michael ?
C'est ce qu'on peut appeler ça, oui, une phobie, oui.
Mais, Michael, il faut sortir. Je vous le dis. Il faut sortir, vous ne risquez rien avec les précautions.
Ben, je ne sais pas, c'est une peur bleue, je n'y arrive pas.
Vous n'y arrivez pas. Est-ce qu'il faut consulter ? Oui.
Je vais juste chercher mon courrier en bas dans la boîte aux lettres ou quand je reçois un colis. Et c'est encore pire, je demande à ce que le colis ne me soit pas remis dans la main. Je demande à ce qu'on le pose par terre.
On le pose par terre, comme ça je peux le prendre moi. Peut-être qu'il va falloir consulter. Hein. Quelqu'un, un médecin, je ne sais pas. Hein. Non ?
Je ne sais pas. Mais
parce que vous n'allez pas rester éternellement enfermé chez vous.
Oui, c'est sûr, mais je n'arrive pas à sortir.
Je sais pas moi, une consultation, commencer à dialoguer avec un psy ou un psychiatre, je sais pas, Michael, moi. Mais moi, je pense qu'il faudrait que vous consultiez peut-être.
Je ne suis pas médecin, je
me garderais bien de vous donner le moindre conseil de médecine, mais franchement, Michael, vous savez ce qu'on va faire, Michael ? Je vais vous reprendre après le journal. D'accord ?
D'accord.
Allez, on va dialoguer un peu. Saint-Mandrier-sur-Mer, c'est dans le Var. Michael qui ne sort pas. Voyez les conséquences, hein ? On ne les mesure pas suffisamment. 32-16, la touche 5, c'est la machine à café, évidemment.
Et le mot matin par SMS au 7-32-16.
À suivre dans Bourdin Direct, retour au collège en zone verte pour les 6e et 5e avec port du masque obligatoire. Comment les établissements se sont organisés ? Philippe Vincent, le secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, avec nous après le journal de 6h30 sur RMC.
Il est 6h32, c'est Anne-Sophie Balbir qui est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Maternelle, primaire et maintenant collège. Retour en classe aujourd'hui pour 150 000 élèves de 6e et 5e. Seules les zones vertes sont concernées. Le port du masque est obligatoire. 483 morts de plus en 24 heures. Dernier bilan, 25 foyers de contamination identifiés en une semaine. Un cluster a été découvert dans dans l'Oise, dans un foyer de travailleurs étrangers. Et puis, des stades vides, mais des records d'audience. Reprise du championnat de football allemand ce week-end. RMC 6h32. Impression étrange après deux mois de confinement. 150 000 jeunes de 6e et 5e vont à nouveau entendre leur réveil sonner. Les collèges rouvrent aujourd'hui dans les zones vertes, les régions les moins touchées par l'épidémie. Retour très encadré, mesures sanitaires strictes, peu importe. Certains élèves sont impatients de retrouver leur classe. Illustration à Nice, au collège Port-Olympia. Romain Cluzel, Caroline Philippe.
Après 65 jours sans aller au collège, le temps commençait à être long pour Arthur. Ce matin, il retrouve sa classe de 5e.
On portera des masques, on restera à 1 mètre, mais j'ai vraiment très hâte, comme ça je pourrais voir mes copains.
Mais aussi ses professeurs pour poser plus facilement des questions.
C'était un peu compliqué parfois de travailler tout seul. Par exemple, il y avait une leçon de maths, j'avais pas trop compris le fonctionnement des leçons. Si tu les comprends pas, il n'y a pas un professeur qui peut te les expliquer.
Son père, Jean-François, lui aussi est heureux de passer le relais.
On a mis un point d'honneur à rendre en temps et en heure les devoirs qu'il devait rendre. Mais par rapport au programme total, il y a plus que des devoirs à rendre. Il y a quand même des leçons, un enseignement, quelque chose de complet.
Ces quelques semaines sont précieuses pour remettre les élèves à niveau en vue de la rentrée de septembre, selon Marc Dimec, le principal du Collège Port-Olympia.
Il ne va pas y avoir d'évaluation des élèves et de notation à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. Donc je pense que l'intérêt, c'est d'être bienveillant, de les remettre au travail. On va jauger, les enseignants vont faire ça pour essayer de relancer la rentrée.
Et pendant les vacances cet été, ils ont aussi prévu d'organiser un soutien scolaire pour les élèves les plus en difficulté.
La réouverture des collèges des 4 régions en zone rouge et de Mayotte doit être tranchée à la fin du mois. Dans la banlieue d'Angoulême, des écoles des communes de Soyaux et La Couronne ont dû fermer. Deux membres du personnel enseignant ou encadrant ont été testés positifs au Covid. Le virus continue donc de circuler. D'ailleurs, ce week-end, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que 25 foyers de contamination avaient été identifiés en France, notamment dans deux abattoirs, l'un près d'Orléans, l'autre près de Saint-Brieuc. Dans l'Oise, à Compiègne, c'est un foyer de travailleurs étrangers qui est touché. Nicolas Ropert.
Début mai, qu'un premier membre du foyer est détecté malade du coronavirus. Quelques jours plus tard, un deuxième cas est signalé. Éric Niquez, le directeur de l'établissement, décide alors d'agir.
J'ai tout de suite, bien sûr, confiné l'étage. Et on a donc pris l'initiative donc de demander à l'ARS de tester l'ensemble du foyer, c'est-à-dire un peu plus de 200 personnes.
Résultat, 12 personnes au total sont testées positives. Un moindre mal, reconnaît le directeur du foyer.
Tout s'est fait quand même de façon assez rapide, parce qu'on l'avait anticipé. Moi, ce que je voulais absolument éviter, c'est d'avoir 200 personnes contaminées. On est par contre probablement passé à deux doigts d'une catastrophe qu'on aurait si on n'avait pas testé l'ensemble du foyer.
Les 12 malades ont été placés à l'isolement. Les résidents vont, eux, être confinés à leur étage.
483 morts de plus en 24 heures en France. Bilan quotidien le plus élevé depuis fin avril. Une hausse essentiellement due aux décès dans les EHPAD et dans les établissements médico-sociaux. Les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent de baisser. RMC 6h35, un témoignage à présent. Celui d'un père endeuillé. Son fils de 9 ans est mort à Marseille le 8 mai dernier. Victime d'une forme proche de la maladie de Kawasaki. Décrite chez de jeunes patients ayant été en contact avec le Covid. 144 cas ont été répertoriés selon la Direction Générale de la Santé. Important donc d'alerter les autorités comme les parents. Raison pour laquelle ce papa a décidé de parler sur BFM TV.
Je souhaite à aucun parent de vivre une tragédie pareille. C'est parti d'une fièvre, une interne. Elle est arrivée, elle a commencé à l'examiner. Elle a déshabillé, elle a regardé toutes ses plaques rouges, ses boutons rouges. Elle n'était pas très rassurée. On est rentré à la maison. Le petit, il a commencé à avoir la tête qui va en arrière. Il a les yeux qui tournent. Les pompiers, ils étaient directement sur place. Ils ont fait très vite. Ils l'ont pris en charge, on l'a mis sur le brancard. Ils ont vu qu'il ne respirait plus. On ne trouvait plus son pouls. Le cœur, il avait arrêté de battre. Il a été admis en service de réanimation à l'hôpital de la Timone. Le diagnostic était que mon fils est tombé. J'ai tombé dans une mort cérébrale, il n'y a plus rien à faire. J'ai demandé, est-ce que vous avez trouvé à quoi ça a été dû? Le médecin m'a dit qu'il s'avérerait que les symptômes ressemblent aux symptômes du Kawasaki. Mon fils n'avait pas d'antécédent médical, il était en parfaite santé.
Il faut travailler à une augmentation des salaires des personnels hospitaliers au-delà des primes. Promesse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé en lancera la première étape de son plan lundi prochain avec une grande réunion avec les partenaires sociaux, des collectifs de soignants. Paul Barcelone.
C'est ce qu'attendent les soignants. Le gouvernement promet de meilleurs salaires à l'hôpital, notamment pour les infirmiers et infirmières. Pour mettre fin à une injustice, en dehors des primes, ils gagnent 300 euros de moins en moyenne par mois par rapport aux autres pays européens. Deuxième objectif, rendre l'hôpital public plus attractif. Et pour cela, l'exécutif entend changer de philosophie. Il planche sur la fin des 35 heures à l'hôpital. En clair, pour les soignants qui le veulent, retour du travailler plus pour gagner plus, comme c'est déjà le cas dans le privé, alors que dans le public, le plafond est fixé à 15 heures supplémentaires maximum par mois, des heures supplémentaires trop rarement payées par manque de moyens. Désormais, plus question de traîner, le gouvernement veut aller vite. Très vite, présentation de ce plan avant l'été pour l'intégrer au prochain budget de la Sécurité sociale voté à l'automne.
Après 10 semaines d'interruption, le football rebondit, reprise du championnat allemand ce week-end, loin de l'effervescence habituelle. Les matchs se sont joués comme prévu à huis clos, Timothée Mémon.
Bundesliga a d'abord réussi un coup de pub sans précédent, reprenant son championnat alors que le reste du monde est à l'arrêt. Sky, diffuseur de la première division allemande, a enregistré samedi un record historique d'audience avec 3,7 millions de téléspectateurs pour son multiplex, le double d'une après-midi de football normal. Malgré une longue période d'inactivité, les joueurs, eux, ont semblé plutôt en jambes avec une moyenne de 2,75 buts par match. Le spectacle a plutôt été au rendez-vous. Les supporters, eux, ont joué le jeu en restant chez eux. Aucune manifestation à proximité des stades n'a été enregistrée. Bref, ce week-end ressemble à un succès. Pour autant, les jours à venir seront déterminants. Les tests effectués tous les deux jours sur les joueurs vont révéler si le virus s'est propagé entre joueurs au fil de cette journée et si le modèle et les protocoles sont efficaces et pérennes. Grand perdant de la journée, l'ambiance habituellement si fervente dans les stades allemands réduite à néant.
Les courses, Mathieu, c'est à Chantilly.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 5, Karlstadt, outsider numéro 10, Mortree, le 5 et le 10.
Je suis content de retrouver Michael. Michael.
Oui.
Saint-Mandrier-sur-Mer, donc dans le Var. Que faites-vous dans la vie comme métier, Michael?
Ben, je suis dans les espaces verts et bon, ben, parce que je travaille aussi dans un centre pour travailleurs handicapés et on fait des espaces verts, pardon.
Oui.
Et en fait, le 2 juin, normalement, je devrais reprendre.
Bon, vous reprendrez le 2 juin?
Bah écoutez, j'appréhende.
Vous appréhendez, hein? Vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis le 16 mars? Ou très
non,
peu?
Très peu. Mais là, depuis le déconfinement, je ne suis pas sorti.
Vous n'êtes pas sorti depuis le déconfinement, vous n'êtes pas le seul. Quentin Vinet.
Oui, on a une étude YouGov ce matin qui nous indique que depuis le 11 mai, un Français sur trois reste confiné, reste à la maison, surtout chez les jeunes d'ailleurs, et beaucoup attendront le mois de juin pour refaire la fête.
Comment faites-vous pour les courses, Michael?
Ben, j'ai des amis autour de moi et je leur donne l'argent. Ils ont ma carte bleue, parce que bon, j'avais quand même retiré un peu d'argent sur moi, et c'est eux qui vont faire les courses à ma place, tellement j'ai peur d'aller quelque part.
Michael, je vais être un peu indiscret. Vous vivez seul?
Oui.
Vous vivez seul. Que faites-vous de vos journées?
Ben, je regarde la télé, ça dépend. Ou je me mets sur le balcon, parce que j'ai un balcon quand même chez moi.
Oui, ça c'est bien.
Mais je ne sors pas.
Vous ne sortez absolument pas?
Non.
Et vous avez peur de sortir?
Ouais.
Mais vous voyez du monde dans la rue?
Oui, je vois du monde, mais pour moi...
Mais avec un masque, même avec un masque, Michael?
Même avec un masque, j'ai peur de sortir.
Oui. Vous avez peur d'attraper ce virus?
Oui.
Vous avez peur que ce virus soit dans l'air?
C'est ça.
Vous avez peur du contact avec les autres?
C'est ça.
Michael, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oui, allez-y, pardon.
Quand il y avait le confinement et que je sortais, en fait, quand je croisais une personne, même si c'était rare, je changeais de trottoir.
Oui, ça beaucoup d'entre nous l'ont fait, hein. Michael, qu'est-ce qui vous ferait ressortir, qui vous pousserait à ressortir, à part le boulot?
Franchement, je sais pas.
Quand vous voyez la vie qui reprend autour de vous, vous n'avez pas envie de ressortir en vous disant, bon, finalement, j'ai eu un peu peur, j'ai pris mes précautions, c'est bien, mais maintenant, il faut que je vive.
J'aurais quand même une appréhension.
Une appréhension, oui.
Ouais.
Bon, Michael, on vous rappellera.
D'accord. Hein?
D'accord ?
Il n'y a pas de souci.
Et merci. Vous regardez la télé ou vous écoutez la radio le matin ?
Ben, je regarde la télé et je tenais à vous dire que vous êtes quelqu'un de bien et franchement, vous avez raison dans certains interviews que vous faites à ne pas avoir votre langue dans votre poche.
Bon, ben merci beaucoup, Mickaël. Merci dans tous les cas. Merci beaucoup. Allez, nous allons parler des collèges, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans les classes de 6e et 5e en zone verte, retour au collège. Et je serai dans un instant avec masque obligatoire pour les enseignants et les élèves. Et je serai dans un instant avec le secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, qui représente les principaux et les proviseurs. À tout de suite, 6h43, vous êtes sur RMC et sur RMC Découverte, bien sûr.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Les collèges rouvrent, enfin, pas toutes les classes, 6e, 5e, en zone verte. Philippe Vincent, bonjour. Allô ? Philippe Vincent, vous êtes là ? Je ne vous entends pas. Philippe Vincent, vous êtes là ou pas ? Bon,
oui.
C'est la matinée des problèmes. Vous êtes là ou pas ?
Oui, je suis là.
Ah, ben dites-moi, vous êtes secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, les principaux et proviseurs. Donc, 6e, 5e, dans les zones vertes, pas pour tous les élèves, on est bien d'accord, hein ? Pas pour tous les élèves, et masque obligatoire pour les enseignants et les élèves.
Oui, c'est ça, c'est le contexte auquel nos collègues principaux et principaux adjoints vont devoir faire face aujourd'hui dans à peu près trois quarts du territoire métropolitain.
Bien, il y a d'autres consignes, évidemment, respect des distances, on se lave les mains, enfin bon, ce sont des collégiens en même temps, hein, 6e, 5e, ils commencent à être responsables.
Oui, et puis je pense que le contexte a joué. Ce sont des jeunes qui ont quand même passé 8 semaines confinés dans leur famille. J'imagine que l'actualité leur a un peu parlé quand même et qu'ils s'attendent, parce qu'on leur a beaucoup dit, et qu'ils s'attendent à être pris en charge avec un minimum ou un maximum. Ça dépendra des conditions de prise en charge sanitaire.
Oui, Philippe Vincent, comment s'est-on organisé dans les collèges ?
Moi, je dirais que on a eu l'avantage d'avoir une grosse semaine de préparation. Il a fallu régler, et c'était souvent l'essentiel du travail des collègues, la capacité à savoir si on aurait les personnels de tout type, enseignants, mais aussi agents, personnels administratifs, de santé, sociaux, disponibles pour accueillir ne serait-ce qu'une partie de notre population élève. Et puis, il y avait, je dirais, tous les aspects pratico-pratiques avec la préparation des bâtiments, des salles, des locaux et puis des détails très prosaïques. Est-ce qu'on aurait assez de gel, assez de masques, assez de stickers, assez de rubalises? Enfin, voilà tout un panel d'éléments techniques qu'il a fallu recueillir en une semaine.
Comment ça fonctionne? Vous avez du gel hydroalcoolique à l'entrée du collège ou à l'entrée des classes
Bah, je dirais qu'on a multiplié, oui, quand on a eu les livraisons en temps et en heure. Oui, du gel à l'entrée et puis du gel en général, du gel dans chaque classe ou dans chaque local utilisé, de manière à ce que les élèves n'aient pas à le chercher, oui, ni les personnels.
Philippe Vincent, problème, ce sont les élèves eux-mêmes. Enfin, les élèves, c'est pas un problème, mais beaucoup, j'imagine que beaucoup voulaient revenir et vous ne pouvez pas tous les prendre.
Il y a un mélange des deux, en fait. Oui, d'une manière générale, on sent bien lorsqu'on leur pose des questions qu'ils ont plutôt envie de venir, parce que, bon, en gros, pour un collégien, le collège, c'est mieux au collège, pour faire simple, et donc, parce qu'il y connaît ses relations, ses copains, ses enseignants, donc je pense qu'il y avait une envie de revenir, et puis il y avait aussi l'inquiétude pour nous, finalement, de ne pas retrouver au rendez-vous une population qu'on aurait bien voulu avoir, c'est celle des décrocheurs, et dans certains endroits, c'est quand même des pourcentages relativement importants, et on se demande si ceux-là seront bien au rendez-vous.
Seront bien au rendez-vous. Je crois savoir qu'en Île-de-France, par exemple, les autorités régionales appellent les familles des décrocheurs qui sont souvent identifiés pour les pousser à retrouver évidemment le chemin du collège ou de l'école ou bientôt du lycée. À propos des lycées, d'ailleurs, vous n'avez aucune nouvelle. Et des classes de 4e et 3e ?
À tous ces niveaux-là, que ce soit les grands de collège ou les lycéens, qu'ils soient professionnels, généraux ou technologiques, sont toujours en attente. Le ministre annonçait une décision fin mai. Nous sommes tous sur le pied de guerre pour savoir quelle sera la décision.
Bien. Et en ce qui concerne, j'ai vu quand même que certains syndicats d'enseignants, pas tous, hein, mais certains syndicats avaient déposé des préavis de grève jusqu'à la fin de l'année scolaire. Comme ça, c'est quand même plus tranquille. La CGT, Sud Éducation, SNALC et Solidaire. Vous avez beaucoup de... Oui, ça vous fait sourire, hein, Philippe Vincent. Oui, ça vous fait sourire.
Oui, parce que c'est quelque chose finalement d'assez courant dans le paysage.
Oui, vous avez l'habitude. Non, mais c'est sûr que vous avez l'habitude. Mais est-ce que ça a posé des problèmes pour l'organisation, ces préavis de grève?
Non, pas à ce stade. Ce qui pose plutôt des problèmes aujourd'hui, c'est les personnels qui sont encore fragiles, qui ont des contre-indications ou qui sont en charge de personnels fragiles ou qui sont dans un état, je pense à votre interlocuteur précédent, de stress par rapport à une reprise. Voilà, donc c'était le besoin de savoir si finalement on aurait les personnels au rendez-vous pour accueillir ne serait-ce qu'une partie de notre population scolaire.
Bien, ben merci beaucoup, hein, Philippe Vincent. Merci, bravo et bon retour. Hein. Bon retour au collège et bientôt au lycée. Il est 6h51 et je salue le travail fait formidable, hein, je le dis, fait par les principaux de collège et par les proviseurs de lycée. Travail formidable dont on ne parle pas suffisamment parce que vous vous rendez compte qu'ils ont en charge toute l'organisation d'établissements qui reçoivent souvent des centaines et même parfois des milliers d'élèves. Et puis il n'y a pas que les élèves, il y a les enseignants, tout le personnel dans un collège ou dans un lycée. Il est 6h51, nous allons retrouver Frédéric Simotel.
Oui, qui va nous dire exactement ce qui se passe quand on tousse, comment les particules circulent-elles d'un humain à l'autre. Les images 3D nous permettent de le découvrir. C'est déjà demain dans un instant sur RMC.
RMC, Bourdin Direct.
Le témoignage de Michael, tout à l'heure, juste avant et juste après le journal de 6h30, vous a ému et vous a même incité à témoigner vous aussi. Samy nous écrit « Nous sommes une famille de 5 adultes. Personne ne sort. On a dû sortir 3 fois seulement depuis le début du confinement pour acheter du pain. Ce matin, je suis sorti acheter de la viande. J'ai vraiment très peur. » David nous dit « Il ne faut pas vivre avec cette peur parce qu'elle paralyse. Il faut vivre avec la crainte, car la crainte nous permet la prudence et le respect des gestes barrières. Si l'on n'a pas de crainte, on se sent invincible et c'est à ce moment-là que l'on risque quelque chose, mais ne surtout pas être paralysé par la peur. » Ghislain nous écrit aussi « C'est la première fois que je fais une démarche et que j'appelle ou que je contacte la radio. Je tenais à remercier Monsieur Bourdin de prendre en charge ce jeune homme, Michael, à 2 reprises. Je suis moi-même dans une période délicate. Je ne désarme pas. » Et puis j'ai aussi Pascal qui a peur de sortir de chez lui, surtout depuis qu'il a appris qu'il allait devoir reprendre le boulot à la fin du mois.
RMC au 732-16.
75 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC.
C'est déjà demain.
Bien, c'est déjà demain avec Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Jacques.
Alors Frédéric, grâce au visualisé... Oh là là, je vais y arriver. Je vais trop vite, vous savez, quand on va trop vite. Visualisation informatique en 3D, on peut se rendre compte de la circulation des particules du virus dans l'air dès qu'une personne tousse. Oui. Parle. Rien que très utile pour comprendre l'utilité d'un masque, Frédéric.
Oui, et puis même pour réaménager un peu les locaux. Donc là, c'est des chercheurs finlandais qui ont fait ce test. Alors si vous nous regardez là en télévision, vous allez voir ces images assez impressionnantes. Donc on a personne qui est dans un rayon, un supermarché, c'est modélisé en 3D. Hein, et lorsqu'il tousse, lorsqu'il éternue, eh bien on voit toutes les particules. Alors comment elles se répandent? Comment alors est-ce qu'elles vont au-dessus d'un rayon? Combien de temps elles restent
aussi par-dessus un rayon?
Et combien de temps elles restent en suspension aussi dans l'air? Donc tout ça, c'est assez intéressant pour ensuite, pour aménager les rayons d'un supermarché, est-ce qu'il faut élargir les allées? Est-ce qu'il faut mettre davantage de filtres dans le système d'aération? Est-ce qu'il faut mettre des plexiglas aussi au-dessus des rayons? Donc ça va permettre de comprendre un peu mieux tout ça.
Oui, et d'autres travaillent, toujours grâce à ces simulations, sur les systèmes de circulation d'air dans les avions.
Oui, on sait que les avions vont reprendre en France a priori mi-juin, et puis vers l'Europe à partir de la moitié de l'été. Et là, c'est assez impressionnant parce que qu'une personne tousse, alors c'est sans masque, hein, qu'une personne tousse à son siège et qu'elle envoie des particules à côté, on peut le comprendre. Mais figurez-vous que ça peut aller jusqu'à 7 rangées devant vous.
Ah bon ?
Une personne sur 3 peut être infectée par vos particules quand vous toussez dans l'avion. Donc, imagine. Alors, évidemment, les avionneurs sont en train de travailler. Une circulation d'air, peut-être qui viendrait par en dessous plutôt que par au-dessus. Des nouveaux filtres aussi pour le système d'aération. Et puis, bien entendu, le port du masque sera
obligatoire.
Oui, sera obligatoire. Ben là, si vous regardez cette vidéo, comprenez pourquoi.
Simulation informatique encore pour voir l'effet du port du masque.
Oui, alors là, toujours pareil, si vous voyez en image, c'est assez impressionnant. On voit vraiment ces deux images, l'une à côté de l'autre, et on voit la personne qui parle avec son masque, ou qui tousse, enfin voilà, qui expulse de l'air, et puis une personne qui est sans masque, et là, on voit exactement tout ce qui se passe. En plus, on voit aussi les effets de la, par cet effet d'image informatique, les effets de la chaleur du corps aussi, parce que le Covid peut se transporter par des petites gouttelettes de transpiration. Et bien là, on voit parfaitement pourquoi ces gestes barrières, pourquoi on doit garder cette distance de plus d'un mètre, pourquoi on doit avoir un masque. On voit
c'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant. Et là, on comprend tout à fait. On se dit, oui. même en déconfinement, j'ai intérêt à garder ma distance de sécurité.
Merci, Frédéric. Il est 6h58. Olivier, là. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Dans un département qui m'est cher, le Gard, oui, et dans une ville, la plus belle ville du Gard, il faut le dire.
La plus belle ville de la région.
De la région, je suis obligé de le dire, hein, c'est Uzès. C'est absolument magnifique. Vous êtes menuisier, Olivier, à Uzès.
Oui, je m'apprêtais à partir pour débarquer pour deux jours, et puis voilà, donc le téléphone a sonné, et je suis avec vous ce matin.
Dites-moi, vous regardez la télé ou vous écoutez la radio?
Mais le matin, avant de partir, je regarde la télé, après je mets la radio,
et voilà.
Je bosse.
Vous savez que vous êtes nombreux à faire comme ça. Hein. On commence avec la télé, puis ensuite la radio. Olivier, vous avez bien fait d'attendre. Enfin, le téléphone a bien fait de sonner parce que vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec, Olivier.
Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe.
J'en suis très heureux. Merci d'être avec nous dans tous les cas le matin. Hein. C'est un vrai plaisir. Salut Olivier, bonne journée.
Bonne journée à vous, au revoir.
Merci, au revoir. Il est 6h59.